Voilà, nous nous retrouvons donc en présence de Christopher Payange, qui est chargé de mission au GIP-GPV sur la question de la prévention de la lutte contre les discriminations, mais pas seulement, Christophe. Hein.
Non, oui, je couvre un peu l'ensemble du développement social du GPV. Mais enfin, la lutte contre les discriminations en fait partie. Notamment, le GIP-GPV est en charge de coordonner un plan qui associe 6 communes, l'État et une bonne partie des acteurs têtes de réseau du territoire autour de l'économie, de l'emploi, de l'animation, et dont Haute-Garonne Développement, qui est particulièrement en charge de, comme tête de réseau, l'animation des relations avec les entreprises qui s'engagent dans la lutte contre la discrimination. Et qui, ça passe notamment par la signature de la Charte de la diversité.
Alors ce matin, jeudi 3 mars, donc c'était la première rencontre annuelle de travail sur la diversité en entreprise. En quoi ces rencontres sont importantes et quel a été le contenu de cette matinée?
Alors le contenu de la matinée a été de regrouper pour la première fois quelques-uns, enfin celles qui ont pu se libérer et venir, de la trentaine d'entreprises signataires de la Charte de la diversité sur le territoire. Le but était de faire une première rencontre autour déjà de la définition de la notion, des échanges autour des pratiques et de la redéfinition des objectifs, puisque sur les 6 objectifs de la charte, les entreprises se sont engagées à réaliser dans l'année un certain nombre d'actions rentrant dans ces cadres-là, donc de faire le point avec elles là-dessus, et enfin d'avoir une intervention autour de bonnes pratiques et bonnes méthodes de recrutement qui justement se prémunissent assez largement contre les risques de discrimination involontaire.
Donc ce matin, on l'a vu parmi les travaux que vous avez présentés et les chiffres, il y avait notamment ceux de l'Observatoire des discriminations qui met en exergue, on le sait aussi avec les rapports de la HALD, le fait que par exemple si on envoie un CV avec un patronyme maghrébin, mais on a 3 fois moins de retours. Alors en quoi aujourd'hui cette question de la prévention de la lutte contre les discriminations passe par la signature de ce charte de la diversité?
Il y a trois raisons. Alors, dans mon intervention, j'ai essayé d'abord de rappeler que la Charte de la diversité entrait dans un volet plus large d'une politique générale de l'Europe et de la France autour de la lutte contre les discriminations, la diversité étant un élément, mais en résonance d'abord avec l'action législative, juridique et judiciaire, parce que le phénomène des discriminations est massif, répandu, systémique et fait que pour les personnes discriminées, un effet de victimisation très lourd, en fait, avec beaucoup de conséquences personnelles, d'estime de soi, de sentiments de rejet, et qu'en plus, du côté des recruteurs, que ce soit les entreprises ou les collectivités, parce que les phénomènes ne concernent pas que le secteur privé et touchent aussi le secteur public sur ce qu'on peut en mesurer. Se prive de candidats qui seraient tout à fait aptes à remplir un poste ou que ce soit dans le recrutement ou à exercer de nouvelles fonctions si c'est autour de la promotion.
Aujourd'hui, on avait ce modèle d'intégration, on va dire, républicaine à la française. Et ce matin, dans votre exposé, vous nous montrez qu'on s'oriente dorénavant, on va dire, depuis une dizaine d'années, depuis les années 2000, vers plutôt un modèle de lutte contre les discriminations, on va dire un modèle plus européen. En quoi ces deux modèles peuvent coexister et cohabiter plus efficacement?
En fait, le modèle républicain est notre approche classique qui est basée sur l'égalité. La limite de ce modèle est qu'il est basé sur une égalité formelle et que donc, par un manque de moyens, manque d'habitude ou de toute façon absence de regard, l'égalité juridique débouche sur des inégalités réelles et donc. Même s'il est idéal, la mise en pratique ne résout pas entièrement les problèmes. Donc, du coup, l'approche européenne a été de partir des situations concrètes et de montrer qu'à l'égalité juridique, il fallait rajouter l'égalité des droits et l'égalité des traitements, c'est-à-dire faire en sorte que toute une série de critères interdits, enfin de critères permettant d'écarter un certain nombre de personnes ou de biens ou de l'accès à des biens de services, à des recrutements, à des accès à des stages, soit carrément prohibés et condamnés à la fois au plan civil et au plan pénal, et de manière à permettre que soient sanctionnés ceux qui, intentionnellement ou même parfois pas intentionnellement, aboutissent à discriminer des personnes, c'est-à-dire à les empêcher d'accéder à des choses essentielles, hein, sans motif réel.
Alors oui, vous parlez même d'un troisième système qui serait, lui, plus de la discrimination positive à la française. Un modèle qui existe déjà, hein, ce matin, vous l'avez rappelé dans votre exposé, notamment avec les zones urbaines sensibles. En quoi donc l'articulation de ces trois modèles va faire progresser notre société, justement, vers une société qui discrimine moins ?
Alors, le modèle de la lutte contre les discriminations, qui est inspiré de directives européennes, est transposé dans les lois françaises depuis le 16 novembre 2001, alors complété par des lois en 2004 et postérieures. Il forme l'arsenal juridique actuel, qui est donc d'interdire et de réprimer les discriminations sur ce que je vous disais, les critères interdits et un certain nombre de biens, de services, de comportements. Là aussi prohibé. Donc c'est un élément qui est répressif avec volonté éducative. La deuxième loi, toujours dans ce modèle, est de créer la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui a d'ailleurs un correspondant qui est à la Maison de la Justice et du Droit des Hautes-Garonne, donc située à Lormont. Et la Haute Autorité en charge d'aider et d'accompagner les personnes qui se disent victimes de discrimination, avec éventuellement, si le procureur intervient et donne son aval, pas des possibilités de sanctions financières et contre les auteurs et contre les personnes morales, entreprises ou associations qui s'y livreraient. Donc on a un arsenal en tout cas très juridique et judiciaire qui est au point. La limite de cet arsenal, c'est qu'il fonctionne de manière uniquement répressive et que la difficulté est justement de faire changer les mentalités et les comportements. Et que pour ça, il faut un engagement de la société civile, hein, et de la société politique aussi. Du côté de la société politique, ça se fait par l'engagement des collectivités, de l'État autour de, notamment des plans de lutte contre les discriminations sur le territoire. Ça se fait aussi par des réformes internes sur les manières de travailler. Et puis, du côté des entreprises et des collectivités, les nôtres sur le territoire y réfléchissent aussi par la signature des actions en faveur de la diversité et de l'égalité. C'est-à-dire, en renvoyant aux engagements de la charte, il faudra rappeler, l'idée qu'il y a à améliorer les procédures internes, c'est-à-dire que ce sont les structures publiques et privées qui doivent améliorer leur fonctionnement pour que toutes les personnes dans leur diversité, quelles que soient leurs origines, leur genre, leurs orientations sexuelles, et après vous avez 18 critères, je ne m'étends pas sur tous, puissent trouver leur place. Donc le travail n'est pas à faire uniquement par les personnes pour qu'elles intègrent un modèle idéal républicain, mais que ce sont aussi les institutions publiques et privées qui doivent s'adapter et être plus accueillantes à la diversité des gens. Mais en tout cas, on peut souhaiter et espérer que l'idéal du modèle républicain de l'égalité soit toujours un idéal et que les mesures pratiques qu'on retrouve à travers la mise en place généralisée, il y a encore du travail pour ça, de la charte de la diversité et des mesures qu'elle sous-tend, permettre de rendre effective cette égalité souhaitée par la République, inscrite sur le fronton des mairies et des édifices publics. Et il reste simplement à la rendre possible. L'égalité, c'est possible. C'est un peu ce qui a guidé l'action des plans territoriaux des Hautes-Garonne depuis son origine en 2004. Et on pense que c'est quelque chose qui peut se faire de manière plus générale.
Très bien. On vous remercie, Christophe Appariange, pour toutes ces explications.